France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau, grand format. Chaque samedi, une heure ou presque pour prendre du recul sur les phénomènes qui transforment nos cultures et nos sociétés. On commence par ce tournant symbolique pour la musique métal.
For best metal performance, the nominees are Gojira, Marina Viotti and Victor Lamont.
And the Grammy goes to Mea Culpa.
Mea Culpa, récompensé dimanche dernier d'un Grammy Award de la meilleure prestation métal de l'année pour son fameux Mea Culpa. Ah, ça ira, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le groupe français Gojira entre une deuxième fois dans l'histoire ainsi que Victor Lehmann. Souvenez-vous, le 26 juillet 2024, Gojira suspendu sur les toits de la conciergerie, c'était la toute première formation de métal invitée à se produire lors d'une cérémonie d'ouverture des JO devant plus d'un milliard de personnes. Alors après 40 ans d'existence à la marge, le heavy metal devient-il enfin fréquentable? Élément de réponse à suivre et puis on s'intéressera cette semaine à un événement culturo-sportif qui raconte aussi le monde.
What's going on?
First and goal. Mahomes flings it. It's there! Hardman! Jackpot Kansas City!
Le Super Bowl, décidément beaucoup d'accent américain. La grande fête du football américain opposera les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles. Ce sera demain soir avec une audience planétaire. Des centaines de millions de personnes verront notamment le king du rap et figure engagée du mouvement Black Lives Matter, Kendrick Lamar. Il vient remporter 5 Grammy Awards. Il assurera la mythique mi-temps du spectacle devant un certain Donald Trump en tribune. C'est la toute première fois de l'histoire qu'un président en exercice assiste au Super Bowl. Est-ce que ce sera l'un des Super Bowls les plus politiques de l'histoire? On en parle dans la seconde partie de cette émission. Bienvenue dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Et ça remue de la tête dans le studio. Le groupe de métal landais Gojira sur les toits de la conciergerie de Paris. Des mannequins de Marie-Antoinette décapitées, scandant l'hymne des sans-culottes à la Révolution française. La chanteuse lyrique Marina Viotti et un final de geyser ensanglanté. C'était la liberté, le troisième tableau de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. J'en ai encore des frissons. Et ce tableau a reçu un Grammy, une première pour les métalleux français. Voilà. Alors pour célébrer Gojira et ce nouvel âge de la culture métal, j'accueille trois invités de choix. Victor Lehmann, bonsoir.
Bonsoir.
On ne dit pas Lehmann, Lehmann.
Aux Amériques, on dit Lehmann.
Lehmann. Vous rentrez tout juste donc des Amériques, de Los Angeles, vous étiez avec eux, les Gojira, et vous avez composé et dirigé la musique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Jérôme Guibert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des musiques populaires, et vous travaillez sur le métal depuis plus de 20 ans. Urbain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes stand-upper actuellement en tournée dans toute la France pour votre second spectacle et vous êtes un fan de métal.
Oui, comme les cheveux le disent.
Et oui, et qu'on voit très bien à la radio d'ailleurs. Alors d'abord, à tous les trois, cette première question, plutôt réaction au moment de cette récompense. Est-ce qu'elle symbolise pour vous? Je commence avec Victor Lehmann. Vous étiez au Grammy justement, au plus près du point d'impact. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Effectivement, c'était incroyable à vivre, je dois dire. C'était, je vais pas dire, c'est beaucoup d'émotions, parce que c'est la phrase un peu convenue, mais c'est beaucoup d'émotions. Et je suis passé vraiment par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel émotionnel, parce que je me souviens de toutes les étapes, en fait, avant ces Grammys. Enfin, c'était une petite idée qui vient dans mon petit studio, etc.
Alors oui, racontez-nous cette idée, quand même. On a envie de savoir comment c'est venu, puisque c'est une première dans toute l'histoire des cérémonies des Jeux Olympiques. Jamais un groupe de métal n'avait été invité à jouer.
Effectivement. Donc Thomas Joly, qui était le directeur artistique avec son équipe d'auteurs, avait envie à ce moment-là de la cérémonie, devant la conciergerie, de faire un tableau autour de la Révolution française. L'idée de révolution est vraiment de la Révolution française, de ce segment de notre histoire, très important. Et on se disait que c'était important d'en faire quelque chose et de le traduire en art, entre guillemets, quoi. Et bon, avec beaucoup de réflexions, c'est vrai que moi, ma réflexion, c'était comment je peux traduire cette espèce de violence, ce lyrisme aussi dans l'histoire, ce passage très intense. Et je me suis dit que de mettre du métal, avant de penser à Gojira, déjà, je me suis pensé au métal, au style musique métal, en me disant, ça n'a jamais été fait, donc c'est révolutionnaire de facto. Et la musique métal en elle-même, pour moi, est une musique révolutionnaire pour plein d'aspects, on pourra développer.
Oui.
Et voilà, et qui mieux que Gojira, je me suis dit, groupe français pour les amateurs de métal, et de plus en plus, pas que de métal, c'est un groupe majeur, pas que parce qu'il est français. C'est un groupe majeur mondial.
Ils étaient déjà dans la tête des streams avant ce Grammy. Ils avaient déjà été nommés aux Grammy Awards aussi. Hein, donc ils étaient bien dans la course.
Donc voilà, je me suis dit qu'ils seraient parfaits. J'aimais le fait qu'ils viennent à côté de Bayonne, etc. Il y avait un côté local, international en même temps. Je trouvais ça superbe. Et,
ils le racontent, ils sont landais d'ailleurs, c'est fondamental. Hein, parce qu'il n'y avait pas autour d'eux des choses qui les aspiraient. Ils n'ont pas eu particulièrement envie de perdre du surf. Je ne sais pas en tout cas s'ils pratiquent par ailleurs, mais disent que c'est vraiment cette forêt et cet océan lointain qui les a construits.
Mais on le sent, et puis ils ont une sensibilité écologique très forte, la nature est partout dans leurs textes et dans leur discours. Et voilà, moi je suis allé à New York et pour les convaincre, parce qu'ils sont landais, mais leur vie aussi est pas mal tournée vers les États-Unis. Leur mère, les deux frères Duplantier, qui sont batteurs et guitaristes, leur mère était américaine, ils ont un peu la fibre américaine, leur label est américain, leur tourneur est américain, ils sont un peu déjà là-bas, quoi. Donc je suis allé à New York et je leur ai présenté une démo que j'avais. Je peux vous dire que c'était un moment de solitude, hein, pour moi quand même, mais qui s'est bien passé. Donc j'ai dû convaincre côté Paris 2024, côté même président de la République, etc. Et puis côté Gojira aussi, parce que même si ils ont fini par me faire confiance, mais on aime le métal aussi parce qu'il y a des codes très clairs, etc. Et eux ne dérogent pas, ils sont dans une ligne de très très précise. Et je pense qu'ils n'avaient pas envie de travestir quoi que ce soit. Et je leur ai dit...
Il fallait ni trahir la culture métal, ni la culture classique, lyrique d'ailleurs.
Mais je leur ai dit que je pensais que le lyrisme... Enfin, comment dire, que entre le métal et le classique, il y avait le lyrisme en commun. Et qu'on allait faire du Gojira à 4000%, qu'ils n'allaient rien faire pour de faux, que ça allait être une plateforme aussi pour eux magnifique et qu'ils ont prise. Ouais, oui. je suis très heureux de ça.
Alors Jérôme Guilbert, le point de vue du sociologue de métal et des musiques populaires sur ce Grammy Award de Gojira et puis aussi donc sur ce passage historique donc d'un groupe de métal qui fait une prestation pour l'ouverture d'une cérémonie de Jeux Olympiques.
Moi, c'est vrai que j'ai été soufflé quand j'ai vu la prestation déjà à l'ouverture des Jeux Olympiques. Les gens accusaient le coup du fait qu'il y ait du métal dans ce genre de cérémonie. Et donc voilà, que c'était la première fois, donc ils vivaient ça.
Et voilà, accuser le coup, en France, ça veut dire quoi, accuser le coup?
Ben, ils pensaient pas que ce serait possible.
Vous, voilà. En 20 ans de sociologie du métal, vous auriez pas pensé que ce serait possible une fois qu'on est dans une cérémonie des JO du
non,
métal?
Mais, oui, mais ben, déjà
et
la cérémonie...
aussi français, bah, non, mais on en parlait, un groupe on en français de métal. Pensez même pas que ça arrivera un moment.
Non, parce qu'en général, dans les débats sur la culture, de toute façon, le métal, il reste à un niveau en dessous, et voilà, il se passe des choses, mais c'est pas visible. Donc, bon, voilà, et ça fait longtemps que c'est comme ça. Gojira, ils ont franchi un peu tous les seuils. Ils ont d'abord fait des tournées dans des salles avec des jauges de 200 personnes, ensuite 500 personnes, ensuite 1000 personnes, et donc à chaque fois, en fin de compte, il y avait de plus en plus de gens qui se reconnaissaient dans Gojira. Et donc ça leur donnait, c'est ça qui leur donnait le côté difficilement critiquable. Voilà.
Parce qu'ils avaient une notoriété, on va dire, de terrain qui avait grandi en escalier, ce qui en faisait en fait des ultra légitimes.
Oui, parce que sans compromission au niveau de la musique, c'est-à-dire en gardant leur ligne.
Donc le point de vue d'Urbain, le point de vue du fan de métal et stand-upper, quand vous avez vu donc images du Grammy et ces images des JO.
Et du français. En fait, avant tout, grosse fierté, effectivement, comme tu disais, il y a eu le coup de prendre ça, et juste après, d'aller sur YouTube voir tous les Américains dire « la France est le pays le plus métal du monde », parce que non seulement ils ont pris le meilleur groupe qui pouvait les représenter et que eux adorent depuis longtemps, Mais ils ont fait le truc le plus métal du monde avec une personne décapitée et le plus français du monde sur la Révolution. Donc en fait, moi en tant que stand-upper, ce qu'on a fait, c'est que pendant des mois, dans les podcasts, dans les stand-up, on a dit que ça allait être, pardon, nul. On l'a dit. Et je me suis ressenti. Et quand j'étais là, en faisant la
J'ai vu Victor Le Mans.
Quand je faisais la shortlist des gens internationaux qui pouvaient prendre, on avait appris que peut-être Daft Punk, mais ça s'est pas fait. Ouais. Peut-être Justice. Et dans ma shortlist rêvée, il y avait évidemment Gojira, mais j'étais là, mais ils le feront jamais. Et ils l'ont fait, et ils l'ont fait de la manière la plus métal possible. Et je me suis rendu compte, moi, en tant que fan de métal, que je croyais qu'on était tous contents d'être dans la contre-culture et de jamais être représenté, que c'était limite cool. Mais quand j'ai vu ça avec tous mes potes, ma famille, et que pendant le truc, tout le monde m'a fait « t'as vu ?» c'est ta chanson, ça m'a fait un truc vraiment extraordinaire.
D'être reconnu et représenté.
Et si bien, surtout que c'était bien. Le riff est incroyable, la chanson est incroyable, le côté français, tout était bien en fait. C'était genre, on n'en revenait pas. Et en tant que français, quand on râle énormément et que pour une fois c'est bien, alors moi je me suis défendu sur les réseaux sociaux en disant ça a été bien parce qu'on a gueulé. Parce que c'est comme ça qu'on fait en France. On gueule avant et après c'est bien et on dit bon ben voilà, heureusement qu'on a gueulé. Mais en vrai, je pense que le fait que plein de gens dans les réseaux et tout se sont dit pendant des mois « Non mais on est français, on est ringard, ça va être nul », ça vous a poussé tous.
Bah, non mais en fait, on est devenu avec...
Est-ce que c'est grâce à eux, Victor Le Mans?
Non mais c'est sûr que quand on est outsider, c'est plus agréable c'est de gagner. Que quand, donc oui. Si on partait gagnant dans l'opinion, perdant, excusez-moi, dans l'opinion, si tout le monde, on se souvient, et puis des polémiques nauséabondes sur Aya Nakamura, je vais parler d'Aya Nakamura deux secondes, mais et après, je crois que, enfin, moi, je suis très fier de ce tableau, enfin, c'est un truc très éclatant à tous les niveaux, symboliquement, politiquement, etc. C'est pareil pour Gojira, en fait, c'est personne n'attend rien. Et en fait, ça explose, et donc du coup, c'est magnifique. Et ils sont outsiders aussi, par définition, parce qu'ils font du métal, parce qu'ils sont français. Souvent, les Français, sur le plan international, c'est jamais très présent. Donc, ça a dû participer.
Il y avait le côté aussi...
Et puis, pardon, mais on dit souvent qu'on acte dans ces grandes cérémonies quelque chose de l'identité nationale. C'était le cas avec le bicentenaire de la Révolution, justement, en 1989. Là, avec ces JO de Paris 2024, ça acte aussi sur la carte, on va dire, de l'identité nationale française. Le métal et Aya Nakamura.
Oui, mais le Hellfest avait déjà mis un grand coup. Gojira, c'est ça. Moi aussi, qu'est-ce que je me suis dit tout de suite, c'est bah, nul n'est prophète en son pays, c'est sûr. Et pour une fois, on a retourné le truc. C'est-à-dire que Gojira, moi j'ai vu Korn au Hellfest, c'est mon groupe de ma vie, ouvrir pour Gojira. De toute ma vie de métalleux, j'ai jamais cru voir un groupe dire « Faites place au meilleur groupe du monde, Gojira ». Ouverture, Korn ouvre pour un groupe français. C'était extraordinaire. Et du coup, non mais on n'en revient toujours pas.
Ça
en fait.
Ça donne envie d'être fan de métal. Vous avez une belle vie avec que des Noëls tout le temps.
Justement, pas trop. C'est pour ça que là, on l'avait. Et du coup, ce côté, c'était. Ils prennent la couronne, mais en France en plus. Et bon, mais et le truc, c'est que c'est quand même un Grammy qui vient des États-Unis, qui récompense le truc le plus français du monde. J'espère qu'ils vont gagner une victoire de la musique ou un truc comme ça.
Restez avec nous, on profite de la victoire de Gojira au Grammy pour s'intéresser à cette France des métalleux aussi et ce nouvel âge de la culture heavy metal. Mais d'abord, une artiste qu'on aime beaucoup dans l'équipe d'Un Monde Nouveau et qui aura peut-être un jour elle aussi un Grammy Award. On lui souhaite Théodora sur France Inter.
Super vilains sont pour une raison. Moi
Après le tube Congolise sous BBL qui agite les dancefloors des métropoles, le phénomène Théodora se raconte et prend sa revanche avec ce titre Ils me rient tous au nez qui vient de dépasser le million d'écoutes sur Spotify. Il tourne en boucle sur les réseaux dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival de Radio France. Elle était invitée par Chili Gonzalez. Elle en a proposé une version magistrale accompagnée par un orchestre de chambre. À quand la version métal ?
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Le heavy metal devient-il enfin fréquentable ? Victor Lehmann, Urbain, Jérôme Guibert, je continue avec vous. Victor, j'aimerais qu'on revienne donc sur ce moment de la cérémonie des Jeux Olympiques qui est aujourd'hui donc récompensé d'un Grammy Award. Quelles ont été en fait les réactions, on va dire, désinstitutionnelles ? Après, on se souvient qu'il y avait une polémique, c'était plus autour de la Révolution française et sur le fait de montrer des têtes décapitées, mais est-ce qu'il y a eu une reconnaissance institutionnelle du métal suite à ça ?
Pour l'après, une fois qu'ils ont visionné... je me souviens, c'est un peu étonnant, mais en tout cas, discuter, je parlais effectivement du président de la République ou des différents ministres, etc. Et j'avais peur qu'en fait, en leur faisant écouter, déjà avant, que ça passerait pas. Bon, c'est passé. Et après, non, au contraire, je pense qu'ils étaient assez fiers, en fait, d'avoir osé, enfin, d'avoir participé à leur manière à l'éclosion de ce moment. Et on a vu, à part Donald Trump qui s'exprimait sur le sujet et en disant que c'était un scandale, non, je crois qu'il n'y a pas eu, côté institutionnel, il n'y a pas vraiment eu de retour négatif en tout cas, il y a eu des retours plutôt très positifs.
Ce qui est même un peu une victoire.
C'est totalement une victoire.
Le point de vue du sonne, ça c'est victoire. Il y a un sociologue et philosophe qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a pensé l'accélération du monde, mais qui a aussi sorti un livre majeur sur la sociologie du métal. C'est arrivé à peu près en même temps que l'exposition à Paris sur le métal, l'exposition à la Philharmonie de Paris. Donc c'était peut-être un premier cran, on va dire, dans l'institutionnalisation, dans l'acceptation de la culture métal, loin des clichés. Il parle justement de cet effet de transcendance, parce que c'est une musique d'expérience. Dans l'époque, ça résonne particulièrement.
Dès avant Hartmut Rosa, en fait, c'est un processus qui existe depuis le début du 21e siècle, parce que la visibilité du Hellfest, le Hellfest a commencé en 2006, et on a commencé à en débattre dans les médias, et donc en fait, il y a des sas comme ça qui sont passés. Bon, Hartmut Rosa, lui, c'est un théoricien de ce qu'il appelle la résonance. À un moment, on est face à quelque chose, il se passe quelque chose, mais ça faisait longtemps qu'il théorisait là-dessus, et à un moment, il a fait un bouquin en disant, écoutez, moi, depuis que je suis jeune, j'écoute du heavy metal, et en fait, ce que je vous ai décrit avec mes concepts de résonance, en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu, et en fait ça m'a aidé à théoriser les fans. En fait, c'est que à un moment ils ressentent quelque chose qui est assez extrême, qui est assez puissant, et j'allais dire face à la difficulté du monde, face à la difficulté de la vie, à un moment ils ont besoin de quelque chose d'agressif, de quelque chose de fort, de puissant, aussi bien du point de vue de la composition musicale que de ce qu'ils ressentent physiquement.
Urbain, justement, dans ces différentes strates d'acceptation de la culture métal, est-ce que là, dans l'époque, justement, elle n'a pas un jeu particulier à jouer par ses résonances, parce qu'elle propose quelque chose de l'ordre de la transcendance, parce qu'il y a une radicalité aussi dans le positionnement. Ouais. On parlait de l'engagement écologique de Gojira.
Pour le premier volet de l'expérience que ça peut être en live, c'est clairement maintenant que les concerts valent une thune pas possible. Autant, moi je ne vais plus voir des groupes mous. Et j'adore la musique molle, douce et molle, mais je ne vais plus en voir en live. Le métal, je ne vais voir que du rap ou du métal maintenant, parce que pour moi, un concert, vu le prix que ça vaut, je veux une expérience, et une expérience, c'est que ça bouge. Donc ça, c'était le premier truc. Ça, je pense que c'est actuel pour ça. Et d'ailleurs, j'ai ramené il n'y a pas longtemps... Je pense que le meilleur moyen, si vous voulez découvrir le métal, pour les gens qui n'aiment pas ça, c'est même pas la peine d'écouter un disque, vous n'êtes pas prêt. Allez voir direct en vrai et voir ce que ça fait aux gens devant. Vous approchez pas trop, par contre. J'ai ramené un copain, il s'est pris une tarte. C'est vrai que ça peut être dangereux dans le, ce qu'on appelle le pit. Mais, et par rapport à l'engagement politique de Gojira, bon ben ça c'est tous les groupes finalement qui
ouais, quand tu vas au concert, t'aimes bien de prendre des claques.
Ouais.
Quand même, je veux dire symboliquement parlant, mais je voulais juste quand même rajouter quelque chose dans le débat, c'est que on parle du métal en général, mais finalement c'est un peu comme tous les genres, il y a quand même des groupes minables et des groupes hyper bons. Et je veux dire, Gojira, c'est quand même un groupe hyper bon. Donc je veux dire, c'est pas tous les concerts de métal et tous les groupes de métal sont pas super.
Ne proposent pas une expérience de transcendance.
Voilà. Donc il faut aussi du talent un peu pour même dans n'importe quel style, je veux dire.
Mais j'en profite pour avoir le point de vue du sociologue. Justement, il y a une évolution du public là. On parle des groupes, mais il y a aussi donc évidemment les auditeurs, les fans de métal, le public lui, il a évolué. Parce qu'au départ, justement, on sait plutôt dans les banlieues populaires ouvrières du nord de l'Angleterre, parce que c'est là que Black Sabbath va créer ce son de métal qui est en rupture avec une ambiance plutôt psyché, flower power, une évolution psychédélique du rock and roll. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment il a évolué ce public à qui on a quand même collé un certain nombre de clichés depuis et qu'il a du mal à se décoller de la peau?
Bon bah ouais, il y a toute une littérature là-dessus. D'ailleurs, je sors bientôt un article sur, qui explique le heavy metal n'est pas né avec Black Sabbath, mais justement, ça fait partie de tout ce débat. Mais effectivement, ce qui est clair, c'est qu'à la fin des années 70, parce que le metal s'est vraiment exprimé comme subculture en réaction au punk. Enfin, il existait déjà auparavant comme, je dirais, une déclinaison blue collar, enfin une déclinaison classe populaire du mouvement hippie. Mm. Et c'est vrai qu'au début, c'était plutôt, ben les caractéristiques, on peut les résumer en 5 termes. C'était plutôt des jeunes hommes de la banlieue en Grande-Bretagne et aux États-Unis et hétéros. Enfin voilà, donc
ça a bougé.
Bah, toute l'histoire du métal, c'est une déconstruction de ça.
Plus on a avancé, plus on s'est distancé de ces premiers clichés là que vous donniez sur la population qui écoute le métal.
On dépasse les frontières, du coup, il y a de plus en plus de femmes au concert, enfin toutes ces questions, il y en a dans le monde entier. Et puis évidemment, il y a un problème, c'est que comme les métalleux, ils sont super accros à la musique, ils vieillissent avec. Et donc c'est vrai que à la fin des années 70, il n'y avait pas de métalleux de plus de 25 ans. D'ailleurs, on les appelait des hardos. Et aujourd'hui, il y en a qui ont 50, 55, 60.
Et il y a près de 30% de femmes qui viennent au Hellfest. Mais aussi majoritairement des gens qui sont aisés financièrement. Et aussi de plus en plus de retraités. Voilà, le public aussi du métal du Hellfest. Vous vouliez réagir, Urbain?
Oui,
vous rajoutiez avant qu'on se sépare sur ce sujet, sur la grande annonce de la semaine. Allez-y.
Alors non, c'est effectivement ce qui a bougé. Effectivement, c'est c'est Barbeau, le mec du Hellfest, il a dit que c'était le festival le plus âgé de France, beaucoup plus en fait. Donc c'est une musique qui est en train d'être âgée. Et effectivement, tu parlais ça venait des banlieues. Maintenant, ne serait-ce que pour le matos, les jeunes pauvres, ils vont se tourner vers le rap parce que c'est beaucoup plus simple. Ne serait-ce qu'avoir un endroit pour répéter, des grattes, une batterie, c'est devenu une musique de bourge.
Mais dans la réception, Victor Lemann, la réception du grand public, elle a changé. Souvent étiqueté enfant, on va dire enfant éternel, ado reclus dans sa cave, le métalleux à cheveux longs, alors qu'en fait c'est souvent un très très grand mélomane déjà pour commencer.
C'est vrai que souvent dans le métal il y a aussi la discipline de l'instrument, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est comme des violonistes classiques pour certains d'entre eux. D'ailleurs il y a un pont, ce qu'on avait fait avec Marina Viotti, la chanteuse d'opéra et tout, mais il y a un pont vraiment entre le classique et le métal qui se fait souvent pas toujours du meilleur goût, le truc symphonique, etc. Moi j'ai dû travailler avec l'orchestre de Paris, j'ai fait des arrangements, j'ai essayé de pas être dans le truc un peu je sais pas, dégoulinant, sur-romantique, etc. que parfois, qui m'énerve un peu dans le métal symphonique, mais qu'en même temps, si c'est bien fait, ça peut être génial parce qu'il y a comme je disais, il y a ce lyrisme en commun entre les deux. Mais oui, non, le métalleux, souvent, il y a une discipline folle, les guitaristes, les batteurs. Si vous regardez Mario Duplantier, le batteur, franchement, c'est incroyable.
Le batteur de
Gojira, pardon, et c'est incroyable comme il joue bien. Là, ce qui fait aussi la grande popularité du métal. Justement, je regardais avec Mario Duplantier, on regardait TikTok, et il me montrait tous les groupes de métal de maintenant en me disant, t'as vu, il y a vraiment une nouvelle génération. Il me montrait un groupe, vous devez connaître, qui s'appelle Slaughter to Prevail, avec un chanteur russe, mais j'ai jamais vu ça.
Ah
mais,
ouais, je l'ai vu au Hellfest.
Mais c'est avec une voix d'outre-tombe, mais c'est tellement violent, mais que même Gojira, il dit ah, c'est tellement violent.
Ouais, mais, moi, lui, mais, je veux pas savoir ce qu'il pense politiquement.
Non, je crois que ça va. Je crois que ça va pas du tout. Mais je voyais sur TikTok, il y avait des milliards de vues, etc. Enfin voilà, il y a les réseaux sociaux aussi s'emparent de tout ça. Et comme on sait, c'est des formats très très courts où il faut être hyper convaincant en une minute. Donc le métal, de toute façon, existera toujours. Dans 100 ans, il y aura du nouveau métal, j'ai aucun doute là-dessus.
Urbain, moi je voudrais que vous réagissiez parce qu'il se passe un nouveau grand moment du métal. Peut-être le plus grand concert de heavy metal de tous les temps. C'est Black Sabbath qui a annoncé cette semaine les détails de la programmation de ce grand concert d'adieu à Birmingham, justement. Ce sera en juin. Il y aura Gojira, il y aura aussi Metallica, il y aura Slayer, il y aura Pantera, il y aura Anthrax, il y aura Mastodon. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que fan de métal ?
Ça représente que je suis dégoûté parce que je peux pas être là et que j'ai déjà mis toute ma thune dans Oasis. Donc ça tue que Ozzy puisse déjà annoncé son dernier concert.
Ozzy Osbourne.
Bah, c'est le pape, quoi.
Il y a chanteur de Black Sabbath.
Le chanteur de Black Sabbath. Il y a Lemmy, et un jour, il y aura Ozzy. Et du coup, le fait qu'il puisse, avec tous ses enfants, faire le plus gros concert d'adieu comme ça, il y a beaucoup de gens de la formation d'origine, bah, c'est extraordinaire. Il faut que j'y aille. Voilà. Parce que, voilà, donnez-moi de l'argent, je veux y aller.
Mais alors, Victor Lemann, question quand même. Vous qui venez de l'électro, vous avez eu un groupe aussi avant d'être le directeur musical, et vous l'avez toujours, des Jeux Olympiques de Paris 2024, dans l'électro. Électro. On a vu donc le hip-hop allez, à qui on peut coller donc un demi-siècle. On a vu l'électro à qui on colle quoi bon, allez, 30... non, avec Kraftwerk, on est sur les cinquantenaires aussi.
Ouais,
hein.
C'est un peu pareil.
Ah, c'est pareil. Est-ce que le métal, il y a une destinée comparable ou pas ? Dans ce qu'il attend ou dans ce que vous voyez
Non, je pense que c'est vrai que le métal, par définition, enfin, représente une forme de contre-culture. Donc, je pense qu'il a vocation à toujours suivre sa propre voie. Mais suivre sa propre voie, ça peut vouloir dire toucher le commercial, comme toucher... Enfin, tous les styles ont leur histoire. Mais par contre, le métal, je crois vraiment, durera toujours, parce que c'est une musique de communauté aussi. Donc, vous parliez d'expérience, c'est aussi de se retrouver au même endroit pour vivre l'expérience au même moment.
Le rite,
exactement, les formes de rituels, etc., les cérémoniales. Et en plus, là, si on va sur les trucs de cérémonial un peu satanistes, etc.,
dans le cliché.
Dans le décorum, dans le cliché. Mais je veux dire, tout ça font que c'est très attirant, parce que c'est un petit peu dangereux, c'est un petit peu... Quand on est adolescent, quoi de mieux que d'écouter du métal, quoi.
Et Gojira, de retour en France bientôt, heureux, ils sont comment ?
Ouais, ils sont heureux, mais parce que aussi pour eux, c'est la première fois quand même à ce point-là, ce niveau de reconnaissance, et tu disais Urbain, nul n'est prophète en son pays, c'est-à-dire qu'ils commencent un petit peu à être prophètes dans leur pays. J'entendais l'autre fois Nagui en parler, ou à BFM TV, enfin je veux dire, effectivement, ils ont tout monté marche après marche. Moi, je suis assez sensible à ça. J'ai commencé à la MJC de Chaville et j'ai fait la musique des Jeux Olympiques. Je comprends très bien ce système du marche
d'escalier.
Par marche et d'escalier et d'essayer d'être honnête à chaque fois dans chaque truc. Mmh. Un groupe comme ça, c'est magnifique. Donc, évidemment, ils sont... Je ne veux pas parler à leur place, mais ils sont très très contents. Ouais.
Et on les attend avec impatience sur France Inter. Merci à tous les trois, vous restez avec nous. On continue de parler musique, de rap cette fois avec Kendrick Lamar qui sera la star de la mi-temps du Super Bowl. Le voici sur France Inter.
Que reflejan tu mirada la noche tu y yo. Burning near me from within. Concentrated thoughts on who I used to be. I'm shedding skin. Every day a new version of me. A third of me demented. Cemented in pain. Juggling the pros and cons of fame. I don't know how to make friends. I'm a lonely soul. I recollect this isolation. I was 4 years old. Truth be told, I've been battling myself. Trying to navigate the real and fake. Cynical about the judgment day. I did past life progression last year. And it fucked me up. Reincarnated on this earth for 100 plus. Body after body. Lesson after lesson. Let's take it back to Michigan in 1947. My father kicked me out the house cause I wouldn't listen to him. I didn't care about his influence, only love what I was doing. Gifted as a musician, I play guitar on a grand level. The most talented where I'm from, but I had to rebel. And so I'm off in the sunset, searching for my place in the world. With my guitar up on my hip, as the story unfurl. I found myself with a pocket full of money and a whole lot of respect. While the record business loved me, I was head of rhythm and blues. The women that fell to their feet, so many to choose. But I manipulated power as I lied to the masses. Died with my money, gluttony was too attractive. Reincarnated.
as a black woman in the chitlin' circuit. Seductive vocalist as the promoter hit the curtains. My voice was angelic, straight from heaven, the crowd sobbed. A musical genius, what the articles emphasized. Had everything I wanted, but I couldn't escape addiction. Heroin needles had me in fetal position, restricted. Turned on my family, I went wherever cameras be. Cocaine, no private planes for my insanity. Self-indulged, discipline never been my sentiments. I needed drugs. To me, an 8-ball was like penicillin, fuck love. My happiness was in that brown sugar. Sex and melodies gave me hope when nobody's looking. My first assistant was a small town scholar. Never did a quaalude till I got myself around her. My daddy looked the other way, he saw sin in me. I died with syringes pinched in me. Reincarnated. Present life is Kendrick Lamar. A rapper looking at the lyrics to keep you in awe. The only factor I respected was raising the bar. My instincts sent material straight to the charts, huh? My father kicked me out the house, I finally forgive him. I'm old enough to understand the way I was living. Ego and pride had me looking at him with resentment. I close my eyes hoping that I don't come off contentious. I'm yelling, Father, did I finally get it right? Everything I did was selfless. I spoke freely when the people needed me, I helped them. I didn't gloat, even told them no when the vultures came. Took control of my fleshly body when the money changed.
Son, you do well, but your heart is closed, I can tell. Residue that linger from your past creates itself.
Father, I'm not perfect, I got urges, but I hold them down.
But your pride has to die.
Okay, Father, show me how.
Tell me every deed that you done and what you do it for.
I kept 100 institutions paid.
Okay, tell me more.
I put 100 hoods on one stage.
Okay, tell me more.
I'm trying to push peace in LA.
But you love war.
No, I don't.
Oh, yes, you do.
Okay, then tell me the truth.
Every individual is only a version of you. How can they forget? When there's no forgiveness in your heart,
I could tell you where I'm going.
I could tell you who you are. You fell out of heaven cause you was anxious. Didn't like authority, only searched to be heinous. Isaiah 14 was the only thing that was prevalent.
Après avoir raflé 5 Grammy il y a quelques jours, notamment meilleure chanson et meilleur enregistrement de l'année pour Not Like Us, nouvelle consécration pour Kendrick Lamar qui se produira ce dimanche au Super Bowl. J'aime faire en sorte que les gens écoutent, mais aussi qu'ils réfléchissent, a-t-il rappelé à cette occasion pour parler de sa musique. Alors, fera-t-il réfléchir Donald Trump qui assiste, et pour la première fois pour un président des États-Unis, à la mi-temps du Super Bowl? Réponse dimanche.
Mathilde Cérel. Un monde nouveau sur France Inter.
Si tant est qu'on est dans la tête de Donald Trump, en tout cas. Pour parler du Super Bowl et de ce qu'il dit de l'Amérique, j'accueille Alain Mattei, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de TouchdownActu.com. C'est le média de référence sur le football américain en France. Une discipline qui commence à avoir de plus en plus d'adeptes d'ailleurs. Et vous commentez la NFL, c'est le championnat américain de Ligue 1 pour le groupe M6. Vous serez d'ailleurs donc demain soir autour du plateau pour parler du Super Bowl en direct sur W9 et sur M6+. Pourquoi ça vous passionne tant? Et comment est-ce que les Français aussi se sont mis à suivre ce Super Bowl?
Je me permets juste une petite correction, c'est sur M6 et pas W9 le match, et après répondre à... Non mais c'est pas grave, c'était les playoffs étaient sur W9. Et donc pour répondre à la question, je sais même pas d'ailleurs pourquoi ça me passionne autant. C'est, je crois que ça s'explique pas, la passion du sport, ça arrive à plein de gens, ça peut être le foot, ça peut être le basket, pour moi ça s'est retrouvé être ça.
Et les Français, eux, ils sont de plus en plus sensibles au football américain. On voit qu'il y a des clubs qui commencent à se constituer. Il y a aussi des clubs de supportrices, enfin en tout cas des gens qui sont des champions de cheerleading, qui sont en train de se monter un peu partout. Donc ça prend.
Ça prend, il y a une base en fait de 20 à 25 000 licenciés à la fédération, donc en comprenant en effet le cheerleading et le flag football, qui est un football américain sans contact, qui est une base qui progresse doucement, mais qui est là hein, depuis des années. Et puis il y a une base, en fait, le paradoxe du football américain, c'est qu'il y a encore plus de gens qui regardent sans jouer, contrairement au foot ou au tennis ou à d'autres sports. Il y a plein de gens qui aiment bien regarder, mais qui n'ont pas forcément l'envie d'aller prendre des coups sur un terrain, et ils sont autour de 500 000 à regarder le Super Bowl tous les ans en fait.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est une radiographie de l'Amérique à l'instant T, le Super Bowl?
Honnêtement, oui, surtout cette année, avec la spécificité d'avoir Donald Trump en plus cette année, je crois qu'on va vraiment avoir au centre de la Nouvelle-Orléans un condensé de tout ce que sont les États-Unis. Ça fait tarte à la crème de dire ça, mais on va avoir au milieu d'une ville qui a un peu plus de 20% de pauvreté, un stade rempli de gens très fortunés, parce qu'on parlait des places pour le Hellfest, mais le Super Bowl, on est à 5 000 $ la place, 6 000 $ la place, voire plus. Donc on va avoir des gens très fortunés dans une ville pas forcément en bonne santé. Et avec Donald Trump d'un côté du terrain, Kendrick Lamar au milieu, ça va être... il y a vraiment tout ce qui constitue les États-Unis dans ce match.
Du point de vue du journaliste sportif, mais du coup qui peut un peu revêtir la casquette politique, ça représente quoi ? C'est quoi le geste, le signe envoyé par Donald Trump en étant le premier président des États-Unis à assister à un match de Super Bowl ?
En fait, alors sans vouloir rentrer dans la psyché de Donald Trump, parce que je pense que c'est compliqué...
Est-ce qu'on a envie d'y entrer ?
Non, je ne pense pas non plus, c'est pour ça que je resterai bien à l'extérieur, mais il y a une histoire en fait qui est très compliquée avec Donald Trump, c'est qu'il y a deux niveaux dans sa venue, c'est qu'il y a celle du président des États-Unis qui vient, qui veut être le premier, etc. Bon, il y a un côté Donald Trump qui bouscule le protocole, ça ne se faisait pas pour deux raisons. La première, c'est la sécurité, parce que le Super Bowl est un casse-tête de sécurité. Pour y avoir assisté plusieurs fois, c'est vraiment un enfer. Déjà, en tant que journaliste, on est fouillé un nombre incalculable de fois, on fait connaissance avec les chiens, on fait connaissance avec tout ça. Donc, rajouter le président au milieu de tout ça, pour le Secret Service, pour le FBI, c'était un problème déjà de base. Et puis, deuxièmement, il y avait cette politesse de dire « le président ne se met pas en avant, la star, c'est le match voilà, ». Bon. Donald Trump, la politesse, c'est pas son truc, donc ça, voilà, il met à côté. Après, il y avait quand même le deuxième élément qui est un peu moins connu, c'est que Donald Trump, il a un vrai passif avec la NFL. Et en fait, cette venue, on pourrait presque la voir quasiment comme un doigt d'honneur à la NFL, au sens où, pendant 40 ans, il a voulu acheter une équipe NFL, Donald Trump, en fait. Mmh. Il a essayé, dans les années 80, d'acheter 3 fois une équipe NFL. À chaque fois, il s'est fait recaler. Dans les années 80, du coup, il a investi dans une ligue concurrente et il a fini en procès avec la NFL. Il a attaqué en justice la NFL pour casser son monopole. Il l'accusait d'utiliser son monopole pour avoir plus de droits télé, etc. Il a gagné le procès, mais il a gagné $3. De dommages et intérêts, c'était $1, mais comme c'était un procès contre un monopole, ils ont triplé le gain, donc ça faisait $3. Et il avait surtout gagné.
C'est encore plus humiliant.
Voilà, c'est encore plus humiliant. Et le patron de la NFL à l'époque lui dit « Moi vivant, t'auras jamais d'équipe ». Donc il y a un vrai conflit en fait de fond. En 2014, il a réessayé d'acheter une équipe, les Buffalo Bills, qui ont failli être au Super Bowl d'ailleurs, et il s'est fait recaler à nouveau. Donc il y a un vrai truc, il a toujours voulu être dans ce club des propriétaires NFL, c'est une sorte de boys club de milliardaires, ils ont chacun leur équipe, etc. Lui, il n'a jamais réussi à y rentrer, donc je pense qu'il y a une vexation profonde chez Donald Trump de ne pas y être, et de dire « je vais être le premier à venir, je vais vous voler la vedette, je vais être là, on va me regarder ». Je pense que ça fait un peu partie de la logique du choix aussi. Quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas une présence provocatrice sur le plan politique aussi ? Parce qu'on peut regarder que ce qui est étonnant, c'est que le commissaire de la NFL s'appelle Roger Goodell. Lui, il ne s'est pas engagé, vous savez, dans le détricotage des plans d'accès à la diversité. En ce moment, on le voit, les géants de la tech, hein, ça a commencé avec Meta, ça a été annoncé chez Google cette semaine. On détricote ce qu'on appelle l'affirmative action, qui était les quotas, les politiques d'aide à la lutte contre les discriminations. Et lui, il n'est pas rentrer dans le jeu, contrairement à tous ceux qui suivent la feuille de route de Trump.
Ce qui est déjà un acte politique fort pour la NFL, même si ça peut paraître modéré pour nous. Il a juste dit, on maintient nos initiatives pour la diversité parce qu'on sait que ça nous rend plus forts. Le mot avait quand même été choisi, il a dit, ça rend la NFL plus forte. Après des années à jongler, ils ont complètement raté le coche sur Black Lives Matter et les mouvements à l'époque. Ils se sont remis un peu plus dans le bain, et c'est vrai que c'était plutôt fort de sa part, même si ça peut paraître insignifiant. Roger Goodell, il faut savoir que lui, son seul créneau, c'est de gagner de l'argent. Il faut que la NFL soit rentable, il faut qu'il y ait des annonceurs, il faut qu'on gagne de l'argent et que les équipes prennent de la valeur.
La diversité lui rapporte plus.
Voilà.
Voilà son arbitrage.
C'est aussi là l'arbitrage. C'est que quand ils ont vu qu'ils avaient raté Black Lives Matter, ils ont vu que le créneau d'être plus ouvert et d'avoir de la diversité, ça marchait mieux.
Il faut qu'on en parle justement de Black Lives Matter. Il faut revenir à Colin Kaepernick, est-ce que je le dis bien, star du championnat qui avait posé un genou à terre en soutien au mouvement Black Lives Matter. Et puis, il y a eu certaines stars qui se sont mis à boycotter le fameux show, puisque c'était un moment politique qui n'avait pas justement réussi à s'embarquer dans cette bataille. Il n'y avait que quelques sportifs et la NFL ne suivait pas.
La NFL suivait pas, ils ont vraiment jonglé pendant des mois à pas savoir quoi faire avec Colin Kaepernick. Est-ce qu'on l'autorise à mettre le genou au sol, pas le genou au sol ? Est-ce qu'il doit rester au vestiaire ? Est-ce qu'on le sanctionne, pas le sanctionne ? Et c'est là où ça avait été vraiment le chaos pour eux. Ils avaient fini par mettre en place une règle un peu, vous avez le droit de lever le poing mais pas de mettre le genou au sol. Enfin, on était dans la gymnastique vraiment un peu étrange. Et c'est là aussi qu'avait commencé l'histoire avec Trump, hein, parce que ça se passe en 2017, Colin Kaepernick qui met le genou au sol, qui est le premier à faire ça. Et à l'époque, Trump incendie brandit des joueurs NFL à longueur de meeting. Une fois qu'il est en poste, il les insulte. Il y a un épisode un peu fameux où il les traite de « sons of bitches ». Il dit « il faut les sortir du terrain, c'est « sons of bitches ». Donc, je ne vais pas faire la traduction, mais c'est « fils de », bon, voilà. Donc, il y a un contentieux vraiment profond à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y avait eu ce moment-là qui était très politique, pour le coup, et où il y avait Trump. Et à l'opposé, c'est étrangement très calme sur le plan politique aujourd'hui.
Ils avaient fini donc par autoriser ou interdire ?
Alors, ils avaient fini. La règle, je crois, définitive avait été vous avez le droit de lever le poing, mais pas de poser le genou. Et si vous ne voulez pas être là pendant l'hymne, c'est-à-dire si vous voulez protester, vous restez au vestiaire pendant l'hymne, en fait. Il ne fallait pas mettre le genou au sol pendant l'hymne.
Alors, il y a un slogan, notamment, qui s'affiche sur la pelouse du Super Bowl, qui est un slogan politique depuis, hein, s'appelle « End Racism ». C'est une première depuis 2021, justement, fin du racisme, enfin, en tout cas, abat le racisme, on pourrait le traduire comme ça en France. Et donc, ils ont mis ça en place dans le sillage de la polémique. Et là, ce ne sera pas présent cette année, alors, en 2025.
En fait, ça va être remplacé par « Choose Love ». Voilà.
Ouais, mais choisissez c'est l'amour. Pas la même chose.
C'est pas la même chose. Alors,
en même temps, c'était Choose Love, nos Jeux Olympiques aussi.
Voilà.
Bon. Mais parfois, il faudrait aussi dire abat le racisme.
Après, ça fait partie
de certaines polémiques.
Ça fait partie des initiatives un peu cosmétiques de la NFL, en effet. Alors, certaines équipes avaient déjà choisi Choose Love pendant la saison, donc on ne sait pas si c'est lié à quelque chose ou pas, qu'ils aient changé le message cette année. Voilà, ça reste sujet à interprétation.
Les joueurs, ils sont ravis, en tout cas, de la présence de Donald Trump. Enfin, Travis Kelce, le chéri de Taylor Swift, il a dit, c'est génial, c'est un grand honneur que ce soit le président qui vienne nous voir. Patrick Mahomes, sans surprise, puisque sa petite copine britannique, elle est assez trumpiste, revendiquée, il est plutôt ravi. Il dit c'est toujours cool de pouvoir jouer devant un président en exercice. Donc c'est la fête à la NFL, la présence de Trump, il est bien attendu.
C'est pour moi la chose la plus incompréhensible. Il faut les comprendre dans un sens, ils ont un match à jouer, ils ont peut-être pas envie de se faire incendier par tout le monde, etc. Pour Travis Kelce, c'est quand même plus étonnant. C'est-à-dire que sa copine, c'est Taylor Swift, qui s'est quand même plutôt fait insulter par Donald Trump.
Mais elle a surtout pris position aussi.
Voilà, elle a pris position.
Enfin, vous savez, les hommes et les femmes ensemble, ils peuvent penser différemment.
Très bien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
C'est bien de le rappeler.
C'est vrai. Autant pour moi, je voulais pas du tout présumer de là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, il y a une sorte de calme et d'unanimité où personne ne veut faire de vagues cette semaine parce qu'il y a vraiment des disponibilités. Il parle à la presse tous les jours là, avant le Super Bowl pendant une semaine. Tout le monde est ravi, personne ne dit rien, il n'y a aucun problème.
On va parler aussi de l'autre événement, c'est Kendrick Lamar qui va faire donc la mi-temps de ce show du Super Bowl. Bon, c'est historiquement un grand rendez-vous de toutes les stars de la planète. Il avait déjà participé, mais collégialement. Là, c'est son show à lui. Et puis, il a évidemment une chanson très importante qui est une chanson qui est en réponse, on va dire, à l'appropriation par Drake des codes du hip-hop. Ça s'appelle Not Like Us. Mais est-ce qu'un Kendrick Lamar qui chante Not Like Us devant Trump, ça peut prendre une autre signification ?
Bah, puis vous l'avez dit tout à l'heure, il a dit qu'il voulait faire réfléchir les gens, faire du storytelling. Donc ça veut tout dire. On ne sait pas exactement ce qu'il prépare, mais c'est clairement...
Ils ne sont pas comme nous.
Voilà, ils ne sont pas comme nous. Enfin, il y a un match dans le match quand même. Puis Kendrick Lamar qui avait quand même été une des voix aussi du mouvement Black Lives Matter avec All Right, avec des choses comme ça. Il avait défilé à Compton quand même. C'est pas neutre non plus pendant ces manifestations-là. Donc c'est le match dans le match, ça va être Trump-Kendrick Lamar à la mi-temps aussi, c'est-à-dire qu'on attend de voir s'il y en a un qui va faire un geste vers l'autre.
En tout cas, vous avez fait une belle promo pour M600, tout le monde va regarder maintenant. Alors Mathieu, je profite de notre présence autour de cette table, donc de nos spécialistes, à chacun dans leur champ de réflexion sur le métal, pour réagir. Aucun groupe de métal n'a eu droit à son show de la mi-temps du Super Bowl. Est-ce qu'un jour, peut-être, ce serait possible pour vous, Victor Lemann ? Est-ce que vous avez proposé cette première historique d'un groupe de métal à une cérémonie d'ouverture des JO, mais on pourrait l'imaginer au Super Bowl.
Complètement, c'est-à-dire que si on a vu l'impact de Gojira, on en parlait tout à l'heure, sur les gens, et pas que sur les gens qui écoutent du métal, sur les gens qui se prennent cette explosion d'expression et d'art, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas un grand événement comme le Super Bowl. En plus, le métal, c'est une musique qui existe beaucoup aux États-Unis, donc bien sûr, ça pourrait exister. Je ne sais pas, on pourrait imaginer Slayer ou Metallica, ou peut-être pas Slayer.
Urbain, le fan de métal, est-ce qu'il y aurait là une levée de bouclier de puristes avec du métal au Super Bowl ? On sait que James Hetfield, le chanteur de Metallica, il a déclaré il y a quelques années que le groupe ne correspondait pas à l'image recherchée pour le Super Bowl. Mais là, c'était plutôt le Super Bowl qu'on voulait pas, quoi.
Ouais, mais ça, je crois pas. Mais en vrai, il n'y a pas 10 000 candidats, hein. Il y a Metallica. tout simplement. Donc si eux l'ont pas fait, et Gojira.
Next step. Next step pour Gojira, le Super Bowl.
C'est toujours des Américains.
Il y a Luan qui va jouer à la mi-temps d'un match de rugby, donc on s'y met en tout cas à cette tradition.
J'ai quand même l'impression, et je vois ça aussi dans la Formule 1 où il y a maintenant des moments de concert au sein du sport, etc. C'est vrai que j'ai l'impression que la musique, et on l'a bien vu dans les Jeux Olympiques, Paralympiques, ce qui n'était pas pour me déplaire, mais s'y mise vraiment dans les grands événements, et c'est-à-dire que les concerts et le sport, on ça en commun. La liesse, les gens, le stade, etc. Le point de convergence, tout le monde regarde l'événement et tout le monde, encore une fois, vit l'expérience au même moment. Donc moi, je me félicite de ça qu'il y ait des concerts dans le sport, c'est génial.
Jérôme Guibert, le point de vue du sociologue, si jamais on a un Super Bowl avec une mi-temps métal, là, dans l'escalier de la notoriété et de l'acceptation du métal, ça représenterait quoi?
Ouais, mais je pense
une culture
que...
pop, je veux dire. Tout d'un coup, on pourrait dire ça.
Ben, on peut se poser cette question, mais il y a aussi le côté dispositif. C'est-à-dire, on est dans des événements hyper massifs, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je pense que par rapport à des choses plus confidentielles. Donc, moi, je suis assez d'accord. Je pense que ça arrivera à un moment, et je pense pas que sur ce point-là spécifiquement, ça puisse faire tomber le métal d'un côté négatif ou positif en tant que tel.
Voilà pour le pronostic sociologique, on va dire. En tout cas, le pronostic sportif, peut-être. Alain Mattei, quand même.
Il est dur. Eagles, sur le papier, Philadelphie a la meilleure équipe. Sur le terrain, les Kansas City Chiefs trouvent toujours un moyen de gagner, donc ça devient difficile de parier contre eux. Ils vont peut-être réussir le premier triplé de l'histoire de la NFL. Ça n'a jamais été fait de gagner le titre 3 ans de suite. Moi, je vais dire les Philadelphia Eagles parce qu'ils semblent être les plus forts, mais voilà.
Ça aura été dit. En tout cas, ce soir sur France Inter, Alain Mattei, rédacteur en chef de TouchdownActu.com et commentateur pour le groupe M6 du football américain, où on aura donc sur la chaîne M6 la diffusion du Super Bowl ce dimanche. On vous remercie infiniment d'être venu nous expliquer tout ça à nous, pauvres profanes. Et merci à Victor Lemann. Votre album Music from the Opening Ceremony of the Olympic Games of Paris 2024 est disponible absolument partout. Il vous avait accompagné le groupe Gojira pour recevoir ce Grammy Award de la meilleure performance métal de l'année. Merci à Jérôme Guibert, professeur de sociologie à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste du métal depuis 20 ans, avec un article universitaire à paraître bientôt, vous nous l'avez annoncé. Et merci Urbain, votre nouveau spectacle partout en France. On vous écoute dans de nombreux podcasts, notamment Podcastos avec vos compères Pierre Thévenoud et Franjo, mais aussi Airball, un podcast sur un autre sport américain, quoi ? Le basketball. Je signale à tous les auditeurs, attention, à 21h sur France Inter, il y a une masterclass événementielle autour de Kendrick Lamar, le king du rap, par le king de l'interview rap, c'est Mehdi Maizi. Rendez-vous à 21h. Et merci à mon équipe, rédaction en chef Redouane Tella, réalisation Fred Milano, préparation Marion Philippe, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin et à la technique cette semaine, c'est Loïs Moreau. We'll be right back.
Thank you.